Pop-pop-pienne, pop-pop-pien, et tous les autres aussi, bonjour. Bonjour et merci, oui, merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter chaque jour. 3,8 millions selon les organisateurs, 742 000 selon la préfecture. Certes, l'émission est menée de main de maître par deux professionnels inspirés de l'audiovisuel, comme nous désigne si aimablement le journal Tympan, la revue du handicap auditif. Certes, elle est préparée par une équipe qui prouve jour après jour qu'on peut être ce qu'on appelle des bras cassés et travailler quand même malgré le plâtre. Certes, enfin, la vague médiamétrie prend en compte les EHPAD et autres centres de rééducation psychomotrice, sans compter comme en Corse, avec les électeurs des auditeurs décédés mais pas encore rayés des listes des instituts de sondage. Mais il n'empêche, ces chiffres-là font chaud au cœur. Et ils vont encore grimper aujourd'hui. Que dis-je grimper ? Tutoyer les cimes, puisque nous recevons un artiste qui cumule deux publics. Celui qui aime rire et qui, contrairement à l'ambiance de merde dans laquelle nous baignons, est heureusement majoritaire dans ce pays, berceau, je le rappelle, de ce qu'on appelle l'esprit français, et celui de ceux qui aiment s'habiller autrement que d'un sac de pommes de terre et de baskets fabriqués par des enfants, dont c'est d'ailleurs aujourd'hui la journée des droits. Bref, le ciel est la limite, Farid est l'invité de Pop Pop Pop. C'est bon les gars, j'ai fini de parler, là, vous pouvez envoyer le jingle. Non mais là maintenant, là. Putain, je le crois pas, ça. Pop, 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 avec plâtre en régie, donc c'est parti.
France Inter.
Pop, 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 vas-y, Antoine. Pop, 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 c'est parti.
Pop, pop, pop. Antoine de Paul.
Et merci à Léon et Gabriel pour ce lancement. Et aujourd'hui, c'est Farid. Bonjour, Farid.
Bonjour.
Je dis aujourd'hui, mais ça pourrait être hier, parce que Farid sera toujours Farid.
Ouais, j'essaye. Oh.
Avec vous, Farid, nous allons parler de Madame Serfati, votre nouveau comédie club, et à mes côtés, celle qui a opté pour un dress code hommage à Madame Serfati aujourd'hui.
J'en étais sûre, je la sentais arriver celle-là. Bonjour Antoine,
Charline.
Bonjour Farid.
Ça va, ça voit très bien ce petit pourpre. Au menu également de Pop Pop Pop, un OPNI, un objet pop non identifié, le bedroom producer Marc Robillet qui sera avec nous tout à l'heure. Voilà, mais avant ça, Farid, ici, il existe une question préliminaire, une question encore plus stressante qu'un stand-upper qui commence son spectacle par...
Je sais pas si vous avez remarqué.
Et je sais pas si vous avez remarqué, Farid, mais ici, cette question, c'est... Farid, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses pharisiennes, stand-upeuses et même sarfatisantes. Et parmi mes préférées, il y a celle de Kian Kojandi.
Je pense qu'on a tous un petit ego un peu prétentieux. On peut se dire que toute notre culture est une pop culture. On se dit, bah non, ma culture est très populaire. Je pense que, ouais, ça fait partie de moi. Ça fait partie de, je la définirais sur, je sais pas, de la musique classique au monde des jeux vidéo, en passant par, ouais, cette génération YouTube, cette génération de prendre du quotidien, en fait. C'est ça, c'est la culture du quotidien.
Culture du quotidien. Et pour vous, Farid, alors c'est quoi cette pop culture?
Waouh, c'est une vraie question, ça. Pour moi, la pop culture...
J'exige une vraie réponse.
C'est la culture qui est accessible à tout le monde, je pense. Ouais, ouais. C'est la culture de tout le monde. C'est on n'a pas besoin de forcément avoir fait des études particulières ou d'être dans un cadre particulier, un métier particulier. Et on y a accès et presque elle arrive à nous, cette culture-là. Mmh. Je crois que c'est ça, la pop culture.
Madame Serfati, c'est de la pop culture?
J'essaie de faire que ce soit de la pop culture, ouais. Même si on essaie de faire quelque chose d'un peu précis et presque puriste dans la vision qu'on a de l'humour et du stand-up, mais j'aimerais que ce soit très fermé artistiquement et très ouvert pour le public.
Ça, on va en parler bien sûr. Ouais. De la salle, non, je pensais à la vraie Madame Serfati.
Ah, Madame Serfati, oui. C'est évidemment de la pop culture. Pour moi, c'est même ça fait partie du patrimoine français, Madame Serfati. Et il y a aussi quelque chose qui dépasse les limites du sketch, c'est que Madame Serfati, c'est une vision hyper française de l'immigration.
Ouais.
Ça fait partie de la France et en même temps, ça vient d'ailleurs. Et c'est ce mélange-là que je trouve beau.
Très bien. Eh bien, mon cher Farid, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, Prisonnière, c'est un morceau de Stéphane Escher, extrait de son dernier album.
Mais c'est encore vous, mon cher. Oh, mais c'est encore vous, mon cher. Me dit-elle tout à coup. Me dit-elle tout à coup. Oh, je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous, faites de moi ce que vous. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Donnons-nous rendez-vous à la rivière. Lavons-nous de la boue. Lavons-nous de la boue. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Prenez-moi dans vos bras, mon cher. Et oublions tout. Et oublions tout. Et tenons-nous debout dans la lumière. Et tenons-nous debout dans la lumière. Soyons prêts à tout. Soyons prêts à tout. Il en va de la vie de nos mères. Il en va de la vie de nos pères. Il en va de nous. Il en va de nous. Je me sens de vous prisonnière. Oh, je me sens de vous prisonnière. Faites de moi ce que vous. Faites de moi ce que vous.
Prisonnière, cet extrait de ses Homeless Songs de Stéphane Escher, son dernier album, et j'en profite pour vous annoncer que mon Suisse préféré est en concert ce soir à l'Opéra Comique et que bien sûr nous serons au premier rang. Stéphane!
Ah, c'est vous, à chaque fois, bien sûr, évidemment.
Vous écoutez Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un invité qui est allé au concert Les Voir Eux. Tokyo! Mais alors, qui est
ça, c'est
ce...
pas bien, ça.
Non, je sais que c'est pas bien. Bien. Qui est ce mélomane? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, son pop portrait, c'est son portrait, bien sûr, Paris, mais... Et c'est signé Charline...
Aujourd'hui, nous recevons une princesse. C'est pas un jugement, c'est lui qui le dit. Alors en même temps, il est vrai qu'il aime à raconter ses états d'âme, de préférence publiquement, sur scène ou à la télé. Mais alors pas encore en chantant, hein, comme chez Disney. Mais sait-on jamais. Comme toute princesse, il affirme à propos de la beauté, je cite, « Ce n'est pas naître beau, c'est le devenir. » Et c'est pas Cendrillon, quand même bien pimpé par sa marraine la fée, qu'il contredirait. Mmh. À ceci près que si notre invité perdait à l'issue d'une soirée une pantoufle de verre d'une valeur d'un demi-rein, parce que c'est quand même de la fourrure, et ben lui, il ferait demi-tour pour aller la chercher. Oui, parce que notre princesse invitée est surstylée et son amour de la sape est aussi grand que celui de Kanye pour Kanye. Parti, bah oui... Mais oui, c'est vrai. Pas un hasard, ainsi, cet homme princesse, à l'affût des tendances, a appelé son Netflix special Fairies the New Black, que la Wintour ne renierait pas. Une princesse drôle, volontairement, j'entends pas Steph de Monac style quand elle chante, et une drôle de princesse, donc amenée à régner sur un nouveau palais, celui de Madame Sarfati.
Steph de Monac, appelée à régner.
Ah bah tout,
ah,
là,
bah,
j'ai
oui,
tout
oui,
mis,
oui,
j'ai
oui,
tout,
les contextes
on sont... est sur un concentré
une,
de...
Une princesse, donc, Fairy.
Ouais.
Oui.
C'est comme ça que j'aime à croire que je suis, ouais. C'est pour justifier, ça fait moins immature, ça fait plus... on permet à ce que j'ai des névroses et que j'ai des envies. Et que,
ouais. Princesse barbue quand même.
Un peu barbue, ah, ouais.
Et
mais ne jugez pas, ne jugez pas.
Je ne juge pas, je ne juge pas, je constate un système pileux bien développé par vous,
ouais.
Vers le haut.
Vers le, ouais, bord, vers le haut, beaucoup, le... ouais.
Ça vous rappelle un ami peut-être.
Oui, absolument. Bien, Fary, montez dans mon carrosse, je vous emmène sur la planète pop, c'est l'heure de votre pop-list. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur Le meilleur des mondes, écrit par Aldous Huxley en 1932. Charline, il s'agit d'un livre d'anticipation annonçant un futur légèrement anxiogène. Mmh. Ne nous le cachons pas. Et pourtant, saviez-vous que ce livre fut écrit en France en 1931 à Sanary sur la Côte d'Azur?
Eh bien, la Côte d'Azur, un lieu hautement anxiogène pour la nordiste que je suis, donc pas de surprise ici. Un futur dans lequel le bonheur est une obligation. Un meilleur des mondes planifié pour construire les hommes en fonction de leurs besoins pour museler les passions et les interrogations jusqu'au grain de sable.
Fary, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois et sans préparation, comme si un acteur entrait en scène sans avoir jamais répété. Mais que peut valoir la vie si la première répétition de la vie est la vie même? C'est ce qui fait que la vie ressemble toujours à une esquisse.
Alors pourquoi avoir choisi Le meilleur des mondes, qui aurait pu être aussi une autobiographie de Miss France?
C'est un très bon extrait choisi. c'est marrant. Je viens de comprendre la blague. Parce que ça a bouleversé ma vision de la vie. Parce que justement, on se pose des questions, bien que ce soit dans un univers, un futur très complexe, on se pose des questions très simples sur le sens même de la vie. Et du coup, ça m'a fait... J'étais très jeune. Au départ, c'était un livre qu'on m'avait imposé au collège. Et c'est l'un des livres qui m'a fait aimer la lecture. Mmh. Parce que je me suis plongé dedans et à la fin, ça m'a... J'étais triste qu'il ne dure pas plus longtemps. Mmh. Quoi. Ça m'a vraiment, vraiment marqué.
Et pas traumatisé?
Pas traumatisé, non. Il y a aussi un peu une métaphore, une personnification de Jésus dedans. Ouais. Et ça m'a aussi fait... me poser d'autres questions sur la religion. Non, ça m'a pas effrayé, ça m'a ouvert à des voies de réflexion.
Très bien. Pour le film Fari, vous avez choisi La ligne verte, réalisé par Franck Darabont en 1999. Charline, cette ligne verte, est-ce celle sur laquelle courait la souris de même couleur, ce qui fait qu'on la confondait et qu'on ne pouvait plus l'attraper par la queue pour la montrer à ces messieurs?
Absolument pas. C'est l'adaptation d'un Stephen King qui, quand il ne fait pas peur, fait pleurer des rivières, parce que si vous n'écrasez pas une larme pendant ce film, c'est que vous êtes tout mort à l'intérieur. La ligne verte, c'est le nom du bloc où sont enfermés les condamnés à mort du pénitencier de Cold Mountain, où officier Paul Edgecombe, joué par Tom Hanks, et la vie du gardien-chef va considérablement changer le jour où il rencontre un nouveau détenu, le colosse John Coffey.
Vous avez failli dire pénitencier quand même.
Ouais, je sais pas pourquoi. Bon, oh, si j'ai une idée.
Le meilleur des hommes, dans le pire des endroits. Il croyait avoir tout vu. Jusqu'au jour...
Un nouveau détenu arrive dès demain.
Où il a rencontré John Coffey.
Il est gigantesque. Est-ce que je vais avoir des problèmes avec toi, bonhomme?
Pendant la nuit, vous laissez la lumière allumée. Dans le noir, j'ai quelquefois un peu peur.
Je suis convaincu qu'il est innocent.
Le plus grand de tous les miracles.
Tu veux que je te sorte d'ici? Que je t'aide à t'enfuir? Que je te laisse toute ta chance?
Pourquoi faire une folie pareille?
La ligne verte.
La ligne verte dans la VF, bien sûr.
Je viens de remarquer qu'ils ont traduit John Coffey par John Café, vraiment, oui, de manière littérale. Ouais, ok, très bien.
C'est du café, non?
Mais ça s'écrit pas pareil.
Ah, pardon, excusez-moi. Alors, pour reprendre l'expression de Charline, vous avez versé une larme ou vous êtes tout mort à l'intérieur?
J'étais jeune à l'époque. Je crois que je l'ai vu deux fois, ce film. Et j'ai choisi ce film parce que je pense... J'ai jamais pleuré devant aucun film.
C'est pas vrai.
Ouais, jamais.
Jamais?
Jamais. Et je pense que c'est le seul film... que si je suis amené à le revoir, je pleure comme un bébé.
Vous êtes un cœur de pierre ou quoi?
Non, pas du tout. C'est que je pense que la sensibilité et assumer sa vulnérabilité, c'est quelque chose qui vient avec l'âge. J'étais très jeune à l'époque, on n'est pas touché de la même façon, quoi. Comme on finit par aimer le café au fur et à mesure.
La mort de Bambi, ça vous a... Ça en a touché une sans faire bouger l'autre.
Non.
Ok, très bien. Continuons avec la série. Vous hésitez entre deux poids lourds. D'un côté, Malcolm, la série créée par Linwood Boomern et diffusée entre le 9 janvier 2000 et le 14 mai 2006. 2004 et 2006. Et d'un autre côté, Californication, la série créée par Tom Capinos, diffusée entre 2007 et 2014. Charline, pouvez nous faire un pitch qui mélange les deux séries?
Oui. Hank Moody est un écrivain polytoxico de 11 ans, doté d'un quotient intellectuel de 165. Il vit dans une famille américaine moyenne, composée de Lois, sa mère hystérique et autoritaire, et de Hal, son père obsédé, incarné par Walter White Eisenberg, qui fabrique de la méthamphétamine. Ah non, là, je suis peut-être allé un peu loin dans le mashup.
Alors, si on mélange les deux bandes annonces, ça donne ça.
C'est à propos de Malcolm.
Moi, c'est Hank.
C'est lui, je l'ai vu.
Je traverse ce qu'on peut appeler une crise de confiance.
Il a un quotient intellectuel de 165.
Eh bien, en temps normal, je vous aurais suggéré.
C'est un génie.
Quelque notre père ainsi qu'un ou deux Ave Maria.
Quoi?
Mais dans votre cas, je doute que ça suffise.
Malcolm est spécial? De qui il tient ça, à ton avis?
Pourquoi pas une petite pipe?
T'as bon compromis, non?
Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Ouais, c'est pas mal.
Hein, petit compromis.
C'est pas mal, c'est pas mal.
Donc vous placez les deux sur le...
En fait, c'est très très dur. C'est vraiment l'exercice le plus dur pour moi, qui adore tout regarder, de dire qu'est-ce que je préfère. Mmh. Et là, sur ce... Parce que Malcolm, c'est vraiment pour moi, humoristiquement... Et sur la longueur, c'est peut-être comparable aux Simpsons, mais pour moi, c'est du génie. Quoi. Mmh. Juste les scènes de pré-générique, c'est tellement efficace, on comprend tout, ça va vite et c'est tellement drôle. Il y a tout qui est fort dans cette série.
Et Californication.
Californication, ça m'a bouleversé. Mmh. C'est du 26 minutes, en plus, c'est rare de que ce soit aussi intense sur 26 minutes.
Vous avez pleuré?
Alors j'ai pleuré après quand j'ai vécu ça dans ma vie. Mais ouais, Californication, c'est assez prenant et extraordinaire. Ça tient, c'est dur de... Alors il y a évidemment Breaking Bad, mais c'est dur des séries qui durent comme ça aussi longtemps et qui restent toujours aussi bien et qui arrivent à nous tenir en haleine. Et Californication, ça en fait partie.
Je vous recommande Ray Donovan qui démarre. Alors quand? Aujourd'hui maintenant?
Oui, aujourd'hui.
Oui. Bon, à force de...
Me disputez pas, c'est pas moi qui suis responsable de la diffusion.
Bon, alors, terminons cette pop list avec votre chanson culte. Et cette chanson, c'est celle-ci, Farid.
Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love beyond rose. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom.
La vie en rose de Louis Armstrong, version Louis Armstrong, c'était en 1950. Ça veut donc dire que vous êtes plutôt Louis Armstrong que Tokyo Hotel.
Un peu des deux finalement. Tokyo Hotel, je l'ai subi. J'ai pas... Non, mais c'est fou parce que c'est pareil. On me pose la question, je sais jamais dire quelle chanson je préfère et ça m'est venu de manière quasi instantanée parce qu'il y a tout ce que j'aime en fait dans cette musique. C'est une chanson française interprétée par un Afro-Américain et puis j'ai l'impression que c'est une musique qu'on peut entendre dans toutes les circonstances. Si je suis triste, je peux l'écouter. Ouais. Si je suis très heureux, je peux l'écouter. Je peux le mettre en fond aussi. Elle est quasi parfaite quoi pour moi cette musique.
Elle a un groove sublime.
Ouais, c'est fou, c'est mélancolique et c'est doux et en même temps c'est positif, c'est trop beau.
Ok, très bien. Alors, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai Le meilleur des mondes, le livre, La ligne verte, le film, Malcolm, Californication, les séries, La vie en rose, la chanson. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
C'est à propos de Malcolm.
Moi c'est Hank, le meilleur des hommes, dans le pire des endroits.
Oh, c'est lui, je l'ai vu.
Il croyait avoir tout vu.
Give your heart and soul to me.
Je traverse ce qu'on peut appeler une crise de confiance.
Il a un quotient intellectuel de 165.
Love and roll.
Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois et sans préparation.
Eh bien, en temps normal, je vous aurais suggéré...
C'est un génie.
Quelques notre père ainsi qu'un ou deux Ave Maria.
Quoi?
Le plus grand de tous les miracles.
Pourquoi pas une petite pipe?
Pourquoi faire une folie pareille?
C'est un peu un mix de pop culture d'un psychopathe, j'ai l'impression. Un petit peu, non?
Ouais, un petit peu. Hein.
Un petit peu.
Ça part un peu dans tous les sens. Ça part un peu dans tous les sens.
Non, attends, c'est cohérent.
Ouais.
Ça me semble très cohérent. Farid, mon mixeur, c'est bien, mais le funk, c'est mieux. Si je vous propose un petit Bill Withers, vous partez pour le courant?
Avec plaisir.
Bien. Alors, ça s'appelle Kissing My Love. C'est extrait de l'album Still Bill. Nous sommes en 1972.
She does. All she wanna do is kiss and hug. She's got me in my heart just a thumping and a skipping when I'm kissing my new. Put your foot on the rock and pat your foot, don't stop. Put your foot on the rock. Put your foot on the rock and pat your foot.
Pop-pop-pop. Antoine de Caunes
et Charline Roux. Lopez, taille et spectacle sont les résultats qui tombent en premier quand on tape votre nom sur Google Paris. Alors, spectacle, je comprends, car vous êtes stand-upper. Taille, je dirais 1m85. Et Lopez, c'est logique, car c'est votre nom de famille. Lopez, rien à voir avec eux.
Non, que tout, c'est un parent, là, on se laisse comme ça. Ça, c'est Lopez, mon copain.
Lopez, les gitans les plus connus de YouTube, qui se clashaient donc par vidéo interposée. Rien à voir donc.
Rien à voir, non. Pas que je sache.
Non, pas que vous sachiez. Aujourd'hui, Farid, vous avez une nouvelle casquette, celle de patron de club, car dans une semaine, jour pour jour, ouvre Madame Serfati, un nouveau comédie club à Paris. Passez donc du stand-up au sit-down.
C'est presque ça. Mmh. J'aime pas me voir comme un patron d'endroit, mais.
Mais oui, c'est le cas.
Mais l'idée, c'est de créer, plutôt de créer un rendez-vous que d'inviter des gens chez moi. Mmh. C'est l'histoire de créer une petite maison d'artistes et de rendre, ou en tout cas, faire un petit hommage au stand-up français. Mmh. Parce que le stand-up, c'est juste le mot qui est américain. La pratique, je crois, elle est internationale et elle traverse toutes les frontières.
Mais un patron de comédie club qui, je cite, porte des pantalons avec des couches, est-ce que c'est bien raisonnable, Farid?
C'est ça, c'est je fais pas exprès.
C'est ça. Est-ce que vous allez avoir un costard, enfin un truc un peu de manager maintenant?
Ah non, je peux pas faire ça, non. Malheureusement. Ouais, il y a des choses que je peux pas accepter malgré ce que je fais.
Madame Serfati, c'est évidemment un hommage à la pop culture et à ce personnage en particulier.
Allô, la police? Oui, c'est Madame Serfati à l'appareil. Oui, j'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. J'ai demandé la police. Non, je ne quitte pas. Oui, alors, je ne suis pas sourde.
Ouais, ce personnage, Eli Kaku, hein, qui a créé Madame Serfati, c'est lui qui vous a donné envie de monter sur scène, en fait.
Entre autres, oui. Avec Jamel après, et Gad après, évidemment, mais... Eli Kaku, je crois que c'est mon premier coup de foudre artistique, humoristique.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait chez Eli Kaku?
Parce que au début, avec le regard d'un enfant, je sais pas que c'est un comédien.
Vous aviez 8 ans à l'époque.
Ouais. Mmh. Je sais pas que c'est un comédien. Pour moi, c'est une dame au départ. Mmh. Ensuite, je vois la même personne arriver avec une toge en prof, et c'est de la magie pour moi au départ. Mmh. Donc c'est vraiment mon entrée dans ce qu'était le sketch, et ça m'a tout de suite passionné.
Mais c'est-à-dire que ce personnage, Antoine le disait, Eli Kaku, lui, il est disparu en 99, vous êtes né en 91, ouais. Si je ne m'abuse. Ouais. Alors, soit vous étiez très précoce en matière d'humour, parce que 8 ans pour comprendre toutes les finesses du perso, faut quand même y aller. Ou alors, quelqu'un vous l'a fait découvrir,
ouais,
a posteriori, qui?
Non, c'est la chaîne Comédie, en fait, ouais. Simplement, ouais. Ça repassait, ça passait et repassait. Et moi, quand j'avais la chance d'avoir la télécommande à moi, je zappais et j'allais systématiquement là-dessus. Et ouais, c'était les sketchs qui tombaient le plus. Et En tant qu'enfant, ce qui, on est beaucoup plus touché par des costumes, des voix que des blagues. Donc, ça m'a tout de suite accroché. Ouais.
Madame Serfati, c'est donc un nouveau lieu à Paris. Hein, ça ouvre dans une semaine. C'est un condensé de pop culture, car il est designé par JR. Ouais. De Serfati à JR, c'est ça la pop culture. C'est un concentré absolu.
Complètement. Hein. Complètement. Et en plus, ça montre tout ce qu'il peut y avoir dans la pop culture et à quel point c'est vaste et à quel point ça peut toucher les gens. JR, c'est vraiment l'exemple même de des petites mains qui font des très grandes choses.
Mmh. Ouais. Racontez-moi ce qu'il a fait d'ailleurs dans le club, à quoi ça va ressembler.
Alors dans le club, il est intervenu le plus, c'est la salle principale, la salle de spectacle. Et en fait, il a créé ce qu'il avait déjà fait au départ, mais il l'a jamais fait dans un endroit public. C'est qu'il a fait un genre de cocon avec une matière qui est utilisée pour les toits de Paris, le zinc. Mmh. Et aussi avec de l'étain des toits de New York. Mmh. Et donc ça crée un genre de cocon qui casse complètement les lignes qu'on a dans une salle normale, des murs jusqu'au plafond. En fait, c'est la même matière qui part du sol et qui se recourbe en haut et qui crée des vagues sur le plafond. Et en fait, on veut pas faire de photos ni de vidéos de cet endroit parce que de la même façon que je viens de l'expliquer et que personne n'a compris, c'est très dur de le voir en photo.
C'est très très beau.
Et de comprendre l'ambiance à l'intérieur. C'est vraiment pour comprendre cet endroit, il faut y être, quoi.
Vous allez jouer sur les toits, ça va être perché.
Ouais.
Mais est-ce que j'ai le droit de dire que même si vous aimez pas, si vous aimez pas l'humour, si vous aimez pas ce qui est drôle, vous pouvez quand même aller voir la salle parce qu'elle est très belle.
Ah ouais.
C'est moyen vendeur, mais en même temps, c'est un peu vrai. Ouais. C'est très très beau ce qu'il
a fait. Au début, on avait peur parce que, on avait peur, on se demande qu'est-ce que ça va rendre, est-ce que pour l'humour ça va rendre bien, est-ce que c'est cohérent. Et en fait, je me dis que le lieu, même si c'est pas un comedy club, c'est unique, quoi. On rentre dans une œuvre d'art, ça c'est.
Alors même si vous récusez le terme, on l'a entendu, hein, de stand-upper à patron de salle, il peut y avoir un monde. À quel genre de difficultés est-ce que vous êtes heurté? Parce que comme le dit l'adage et le film, travaux, on sait quand ça commence. Trois petits points.
Ah ouais, on est confronté surtout à ce que c'est que d'ouvrir un lieu à Paris et en France, il y a beaucoup de réglementations qui aident, hein, qui protègent, qui sécurisent. Mais le gros problème du Comedy Club, c'est que c'est un peu un lieu hybride, c'est un entre-deux. C'est ni une salle de spectacle, ni un restaurant. Et ça, dans la législation, ça n'existe pas. Il y a le café-concert qui existe, mais pour nous, ça n'existe pas. Mmh. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Et ça, c'était compliqué, parce qu'on peut pas demander à des gens de créer des lois pour nous.
Dans ce Comedy Club, vous êtes ouvreur, barman, restaurateur, ingénieur du son, directeur artistique, chef de chantier. Vous avez réussi à trouver le casque adéquat.
Ouais, je passe le balai aussi de temps en temps. je fais un peu tout, mais il y a surtout des gens qui sont là pour m'accompagner, en fait, qui sont là pour faire le vrai travail, entre guillemets, parce que moi, c'est vraiment de la direction artistique. Je viens, je fais le Steve Jobs, quoi. Ouais, ça oui, ça non, alors qu'il y a des gens qui sont là toute la journée et qui travaillent. Après, c'est moi qui récupère le mérite, mais il y a notamment mon associé principal qui est Jennifer Soussan, et puis tous les gens qui travaillent à la com, à l'organisation de... Il y a Laura Léonard, l'architecte intérieur. Tout ça, c'est des décisions un peu collégiales et ça va dans le sens de ce qu'on veut faire. C'est un endroit où les gens vont se retrouver, quoi.
Et l'ouverture de ce lieu, est-ce que c'est aussi parce que l'offre actuelle en matière de Comedy Club ne vous satisfait pas entièrement?
Plus ou moins, c'est pas qu'elle me satisfait pas, c'est que je pense que on est arrivé à un stade où simplement il y a beaucoup d'humoristes, ce qui est merveilleux. Et c'est par les Comedy Club qu'on se forme, parce que c'est plus on joue et plus on devient bon et plus on connaît qui on est sur scène et qui on veut devenir. Et donc à un moment donné, simplement dans les Comedy Club, par plateau, il y a 8 humoristes. Et donc, ça veut dire qu'on fait que 5 minutes chacun, et 5 minutes, ça permet pas de venir et tester d'autres blagues, et c'est comme ça qu'on évolue. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a une étape d'après à créer. Et moi, je veux ouvrir un comedy club parce que je veux faire que ça fasse partie de la création et de mon spectacle et des gens qui m'entourent. Et je pense que, au lieu d'aller tester en province et d'offrir aux gens un spectacle qui n'est pas tout à fait terminé, autant créer un lieu dédié à ça.
Farid, l'équipe de Pop a visité ce Comedy Club hier soir et a pu constater que vous validiez tout jusqu'au cure-dent. Vous pensiez un jour devoir valider des cure-dents?
Vraiment pas. Je pensais pas déjà un jour qu'il y avait plusieurs variétés de cure-dents. Ouais. Déjà juste ça. Ouais, je suis un peu comme ça aussi dans mon spectacle, dans ma carrière. J'ai besoin de...
Perfectionnisme.
Ouais, de mettre mon nez dans tout, quoi. Et puis aussi d'apprendre. Parce que en mettant mon nez dans tout, je mets mon nez dans des choses que je connais pas, et ça me permet d'apprendre et de pas parler de choses que je connais pas.
Bon, mais faites gaffe, vous mettez votre nez quand même.
Quel souvenir vous gardez-vous de votre premier comédie club, le premier dans lequel vous ayez joué? Du coup, quelle image vous voulez que les artistes qui vont monter sur la scène du vôtre aient?
Alors, c'est une bonne question. Parce que la toute première fois, c'était le Schirmschmann Comedy Club.
Rue Oberkampf.
Rue Oberkampf, exactement. Tenue par Françoise Deldy, que j'embrasse si elle nous entend.
On l'embrasse quand même.
On l'embrasse quand même. Toute façon. Et le premier sentiment que j'ai eu, c'est un sentiment de, au tout début quand on arrive, c'est de ne pas appartenir à ce monde. C'est ça qui fait peur. C'est de se dire, oh, qu'est-ce que je fais ici? Comment me voient les gens? Et en fait, ça fait partie de la vie dans n'importe quel endroit. Quand on arrive, on se sent jugé, on se sent pas à sa place. Et moi, j'aimerais créer un endroit où qui va tenter de... C'est très dur, hein, parce que c'est un peu comme ça, c'est la vie, quoi. Mais où, dès qu'on passe la porte, on a le sentiment qu'on est chez soi.
Chez Madame Sarfati, des stand-up, hein, du mercredi au dimanche, pour voir... ou encore... C'est une programmation assez inédite. Que pouvez-vous nous en dire?
En fait, j'essaie de pas parler des gens qui vont passer là-bas, parce que on sait que ça va être des gens qui ont un nom, qui vendent des billets, et j'ai pas envie de capitaliser sur leur nom. Ça, c'est la première raison, et surtout j'ai envie que les gens viennent pour consommer et pour découvrir et pour voir du stand-up, pour voir de l'humour sur scène, et pas pour venir voir des noms. J'aime aussi l'idée d'aller à contresens, de faire des stories, de faire des tweets, de faire des snaps pour dire qu'est-ce qui se passe où, avoir des images, avoir des photos, se dire que si t'y étais pas, fallait y être.
En tant que stand-upper, vous avez déclaré me dire que dans la salle, j'ai des jeunes qui m'ont vu au Jamel Comedy Club et un monsieur qui m'a découvert dans le Figaro, c'est exceptionnel. Alors en tant que patron, quel genre de public est-ce que vous visez?
Exactement celui-là. C'est de se dire qu'on arrive et de voir que les gens qui vont pas ensemble, ils vont bien ensemble.
Farid, avec Madame Sarfati, vous n'avez pas peur d'un copy Comedy Club, une attaque en règle de Jamel, pionnier en la matière?
C'est marrant, j'ai eu au téléphone ce matin. Je l'ai appelé justement...
Ça s'est mal passé?
Non, non, c'est marrant, je l'ai appelé ce matin. Enfin, il m'a rappelé ce matin, parce qu'on n'a pas de Jamel Debbouze au téléphone aussi facilement.
Non, vous avez remarqué.
Ouais. Mais il m'a rappelé ce matin, et justement, je l'ai appelé pour juste lui signifier le respect que j'ai pour lui et pour son travail, et pour lui expliquer que c'était aucunement une façon pour moi d'aller sur ses plates-bandes, ou d'essayer de faire pareil, ou d'essayer de faire de la concurrence. Et il m'a dit... Il m'a dit qu'au contraire, on avait besoin de ça.
Vous avez une ambition de spectacle qui serait mi-stand-up, mi-conférence.
Ouais.
C'est toujours d'actu, c'en est où? Comment ça se travaille? Comment ça se prépare?
Je pense que ça se travaille sur scène. Ça se travaille en essayant de s'instruire plus, d'apprendre plus, de lire beaucoup. Et simplement en travaillant sa capacité à avoir un point de vue. Je pense que c'est le point de vue et réussir à en tirer une analyse et une idée intéressante. Donc je pense que c'est les années. Hein. C'est les années, parce que si on le fait de manière forcée, si on se pousse à le faire comme on étudierait pour aller passer un examen, ça devient artificiel. L'idée, c'est que ce soit aussi organique que travailler, quoi.
Eh bien, en attendant impatiemment le prochain spectacle de Farid, on pourra donc aller chez Madame Sarfati.
C'est ça.
Hein, donnez-nous l'adresse tant qu'on y est.
49 rue Berger.
Et ça sera à partir de...
Du 27 novembre.
Du 27 novembre, si les travaux sont terminés, mais ils le seront, bien entendu.
J'ai vu le chef de chantier, il a l'air d'être au taquet sur le dossier.
Ok, Farid, vous savez faire plein de choses, vous savez faire ça?
Je pense que je sais le faire. Quand j'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, il fait très bien.
Bah oui, alors il est même impeccable celui-là. Bon, c'est pour lancer les pop news.
Les New-Yorkais de Nada Surf sont de retour. 4 ans après leur précédent, les auteurs d'entre autres tubes de Popular et Always Love viennent de dévoiler le titre Something I Should Do. Un nouveau titre qui annonce un 9e album, Never Not Together, prévu pour le 7 février.
Jeu de rôle dans un polar intitulé Self-Control, sous-titré Le polar dont vous êtes l'assassin. À quelques semaines de passer son diplôme de contrôleur aérien, Julien Antoine tue une femme. Et comme Julien Antoine, c'est vous, ou moins, hein, tout dépend de qui lit, il lui faudra faire de bons choix, ou en tout cas, qui nous permettront de ne pas finir au frais, par exemple. Et sans trop en dévoiler, à l'issue du premier chapitre, il vous faudra choisir entre se rafraîchir aux toilettes, prendre la fuite, ou se rendre et avouer. Ça s'appelle « Self-Control, le polar dont vous êtes l'assassin » de Paul Bianchi et Thomas Gaillet, aux éditions Nova.
Ce soir sur TMC, du luxe, des stars, parmi lesquelles Inès de la Fressange et Catherine Deneuve, des tenues chatoyantes, mais aussi des chaussures.
C'est le casting des plus grandes légendes accro à Monsieur Vivier. Avec Marlène Dietrich, la reine d'Angleterre que Vivier avait chaussée pour son sacre, même la Catherine Deneuve des Demoiselles de Rochefort.
C'est merveilleux de voir la couture traitée comme ça avec légèreté et grâce. Et puis c'est vrai que ces souliers sont merveilleux. Ce sont vraiment des souliers de conte de fées, mais qu'on peut porter.
Catherine Deneuve qui contemple Catherine Deneuve et Catherine Deneuve qui aussi admire Catherine Deneuve. C'est une boucle de Deneuve.
Et ces beaux souliers, ce sera dans 52 minutes de mode par Loïc Prigent ce soir à 23h10 sur TMC.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Pas Catherine Deneuve, de toute évidence.
Si, c'était Catherine Deneuve. Je suis désolé, c'était Catherine Deneuve dans Pando. Merci Charline. Dans la suite de Popopop, on va parler de pop avec le musicien Marc Robillet. Mais avant ça, on écoute Holly Terren. C'est un morceau signé FKA Twigs avec le rappeur Future. Yeah.
Take me to my favorite show. Day two, hold my hand and pull me close. Next to me, kiss my cheek, cause sunny days. Day three, take me to a deep river, steal a kiss when I'm lost in the mist. Will you still be there for me? Once I'm yours to obtain, once my fruits of a taking. And you flow through my veins. Do you still think I'm beautiful when my tears fall like rain? My love is so bountiful for a man who's true to me. A man who can find his heart, not get bound by his poisonous chains. For a man who can follow his heart. My skin right, hot pink when you open up my sweet thighs. Pull you in and your life can begin, cause it's early days. Will you still be there for me? Now I'm yours to obtain. Now my fruits are for taking, and your fingers are stained. Do you still think I'm beautiful?
FK Twigs, nommé aux Grammy Awards catégorie meilleur clip de l'année. J'en profite pour vous annoncer que mes chouchous de Rival Sons sont nommés deux fois Best Rock Performance et Best Rock Album, voilà. Et que c'est une autre de nos chouchoutes, Lizzo, qui domine la future cérémonie avec 8 nominations. Résultat, le 26 janvier. Voilà, vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture, comme dirait Fary, de façon...
Bonne maîtrise.
Il y avait moins, ouais.
Et nous sommes donc toujours en compagnie de Fary et vient de nous rejoindre Marc Robillet. Bonjour Marc.
Bonjour à vous.
Vous savez faire ça, vous savez le faire, le pop?
Attends, je vais essayer.
Non, pas du tout.
Non. Marc, aucune idée.
Ne le refais plus jamais.
Malgré votre nom qui sonne bien français, vous ne l'êtes qu'à moitié, hein, du côté de votre père, et vous avez grandi à Dallas.
C'est ça.
Dans un univers impitoyable. Ouais. Vous sentez quand même des attaches françaises?
Oui, mais en fait, ma cousine, elle habite ici à Paris. Mm-hmm. Ma tante, je crois, elle est toujours là, mais pas beaucoup de famille. Quelques amis. Mm-hmm. J'ai vécu ici de 2011 à 2012. Et c'est tout en fait. J'ai passé quelques étés là.
Bah, c'est ce qu'on appelle les attaches.
Ouais, voilà.
Oui,
ouais.
Des attaches très très françaises, parce que j'ai ouï dire que si je vous dis il revient à ma mémoire des souvenirs familiers, vous êtes tout à fait apte à compléter.
Ah oui, je revois mes bleus et noirs. Lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école.
Le grand Charles.
Le fou chantant, c'est ça?
Oui. Magnifique Charles Trenet. Marc Robillet, vous êtes ce qu'on appelle un bedroom producer, un producteur de chambre à coucher, c'est-à-dire un producteur qui fait tout depuis sa chambre à coucher. On peut donc dire que c'est de la musique de chambre.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Toute seule.
Musique.
Pas de producteur, pas. Personne,
pas d'intermédiaire.
Des oreillers, quoi.
Voilà. Que vous, voilà.
Quoi. Ouais. Musique conçue en chambre, mais écoutez où et comment?
Ben, comme vous voulez, hein. Comme vous voulez, dans ta chambre, dans ta voiture, en train de faire l'amour, comme tu veux, hein.
En concert.
En concert. Mmh. En live, c'est préféré, en fait. Oui.
Et d'ailleurs, question idiote, mais pourquoi la chambre à coucher plutôt que, je sais pas, moi, le salon, la salle à manger, la cuisine?
Oh, ben. C'est une bonne question, je ne sais pas. Parce que beaucoup
parce
de la musique,
c'est... Peut-être que vous n'avez qu'une chambre à coucher aussi.
Oui, oui. Oui, la musique, c'est plutôt... Il y a beaucoup de la musique qui est un peu sexuelle, un peu... Ouais. Voilà, alors... la chambre.
C'est pour l'inspiration, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est pour t'aider un petit peu. Ouais.
Alors, particularité, vous faites tout seul avec votre looper en faisant des couches de boucles. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Ben, c'est tout simple, en fait. J'ai mon ordi, un clavier et voilà le looper. Et le looper, ça prend les sons que j'ai sur mon ordinateur. Je les joue sur mon clavier et les drum pads. Et voilà, tout ça, ça passe dans mon looper. Mmh. Et je fais petit à petit, élément par élément, en fait. Ouais. Le d'abord, le percussion.
La rythmique, ouais.
Après ça, peut-être le piano. Mmh. Après ça, le bass. Après ça, le synthesizer. Et voilà, après ça, on a un petit chanson. Je peux enlever les éléments, je peux les rajouter. Après ça, je peux chanter au-dessus. Je fais des harmonies. Tu peux et voilà, c'est comme ça. Tu le construis élément par élément comme
piano
ça.
Piano dont vous jouez particulièrement bien en plus.
Oh mais merci, c'est gentil.
Oui. Non, c'est gentil. Oui, c'est quand même la base.
Gentil.
Vous avez compris le processus, Fary?
Ouais, j'ai essayé. Ouais. J'ai essayé de m'imaginer. Hein? Ça a l'air pas mal.
C'est assez foufou.
C'est assez simple.
C'est en impro.
C'est timing, tu sais, c'est... Comment ça se dit en français?
Le timing.
Justement, en ce qui concerne vos prestations, que ce soit sur les réseaux ou sur scène, vous parlez de concerts ou de performances, parce que ça tient aussi de la performance artistique, ce que vous faites.
C'est un peu... Oui, c'est un peu les deux, en fait.
Vous êtes comédien, un peu.
Un peu, oui, oui. Et le truc, c'est le show en live, en performance, aussi dans les vidéos, mais... plutôt en performance, c'est complètement improvisé. Alors j'arrive sur scène, j'ai pas de plan, pas de chanson, pas d'idée, et j'utilise la public à m'aider de trouver des chansons.
Ça vous panique jamais?
Non, au début oui, mais maintenant c'est normal.
Vous imaginez Safari arriver sur scène
Jamais de la vie.
C'est exactement le contraire de ça.
Mais jamais. Ah ouais, c'est pile le contraire. Ouais. C'est silence près. Jamais de la vie.
C'est comme arriver en legging.
Wow. Ah ouais, c'est pire que tout.
Ouais.
C'est comme, c'est, non, c'est l'inverse. C'est comme arriver tout nu, vraiment.
Ah oui.
Et dire, bon, voilà, c'est tout ce que j'ai.
Alors, Marc Rebillet, il y a.
C'est mon concert, comme ça, c'est ça.
Il y a encore 2 ans, Marc, vous travaillez dans un call center aux États-Unis, même si vous cherchiez à développer un projet musical depuis 10 ans. Et puis, une vidéo postée sur YouTube a tout changé. Ça s'appelait Summertime. Ouais. Ça n'avait qu'un très lointain rapport avec la chanson de Gershwin, immortalisé par Ella Fitzgerald. On vous y découvrait en maillot de bain, avec une serviette de bain sur les épaules, et ça donnait ça. Au final, presque 1 million de vues hein, sur YouTube. Et là, tout décolle et vous voilà sur scène avec votre clavier, votre looper et votre micro face à un public que vous déchaînez littéralement à chaque fois. Ouais. Alors, particularité, même si vous avez déjà publié 2 EP et 2 albums, vos spectacles sont, vous le disiez à l'instant, totalement improvisés.
C'est ça, tout à fait, oui.
Donc vous arrivez et hop, vous vous jetez à l'eau.
On verra chaque soir, c'est différent, je ne sais pas, parfois c'est mieux, parfois c'est pire, mais c'est un show chaque soirée, c'est un show.
C'est jamais 2 fois la même chose.
Non, c'est ça, tout
à fait. Les paroles aussi, c'est improvisé.
Les paroles, tout, oui, la musique, les paroles, oui.
Mais du coup, les gens qui ont envie de voir Summertime en vrai... Et...
Bah, en fait, à la fin, alors c'est 98% improvisé, mais à la fin, je fais 1 chanson ou 2 comme Summertime, mais... des vidéos.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire comme Coldplay, ou c'est-à-dire crier « À vous !» Personne ne peut y aller derrière.
Non, mais ça arrive parce qu'on fait 1 chanson.
Oui, ça se construit au fur et à mesure.
C'est gilet jaune, eux, ils doivent improviser.
Voilà, tout à fait. La public improvise, on fait gilet jaune, après je lance à la public gilet jaune, gilet, allez, 20 ans Macron, salaud,
waouh.
Il y a un magazine en ligne qui parle de vos prestations comme sujettes à un effet wow et entraînant des réactions consistant souvent à un what the fuck.
Ouais.
Alors, do you care to explain pour les non bilingues, non milléniaux, s'il vous plaît?
Wow. Wow.
Bah, effet c'est... wow.
Wow. Hey, wow. Ouais. What the fuck? What the fuck? Mais c'est pas en français. On dit pas ça en français. Ouais, pas
non,
pas
on
beaucoup.
A toujours pas réussi à le traduire.
C'était très branché. C'était vraiment branché.
What the fuck?
Généralement, on dit what the fuck timing.
What the, oui, phrase, oui. What the fuck timing? Oui, voilà. Non, mais c'est. Bah, comment traduire what the fuck? Ça veut dire. Qu'est-ce que c'est ce bordel?
C'est quoi ce bordel?
C'est quoi ce bordel? Oui, c'est ça, tout à fait.
Fichtre,
oui.
Mais qu'est-ce que c'est?
Ouais, ça sonne tout de suite très...
Ouais, ouais, what the fuck.
Mais qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est un peu ça.
Mais en fait, aux États-Unis, on pourrait pas dire ça sur la radio.
Mais non, mais nous on peut.
Ah, ouais.
C'est pour ça qu'on vit ici.
Génial, j'adore la radio française.
Farid, excusez-moi, je n'ai pas encore vu la salle, Madame Sarfati, mais j'imagine que c'est tout à fait le genre de spectacle qui pourrait s'intégrer chez vous.
Ah oui, bien sûr. Typiquement, oui.
C'est vrai? Soir, un pro total, t'arrives avec la platine et hop, c'est parti, quoi.
C'est comment, c'est quel style de soirée, c'est...
Ah, c'est un comedy club.
C'est assez habillé.
Ah, oh, génial. Oh, ouais. Ça marcherait.
C'est un comedy club.
Faites bien de le préciser.
Tout à fait. J'ai pas fait beaucoup de comedy club, mais j'aimerais bien. Parce que je crois que ça marcherait.
Tu peux arriver et faire un set de 12 minutes?
Ah oui, c'est sûr.
Ah, waouh.
Ouais, oui, oui. Bien sûr.
Voilà.
Jeudi, tu fais quoi? Jeudi,
j'ai fait waouh.
Ouais, tu fais quoi?
Bon, il paraît que vous demandez toujours aux organisateurs de vos spectacles un objet qui fait un son rigolo.
Oui,
c'est vrai ça.
Oui, c'est vrai. Oui,
comme
oui.
Quoi, par exemple?
Bah, à Bristol, ils m'ont donné comment ça se dit en français, anal beads.
Oh.
Petit truc, les petites balles, tu mets là-dedans, tu mets
les perles qu'on se met dans le
in a special place, you know, a very special place.
Okay.
On donnait ça, mais le son que ça fait,
c'est sa manière la plus gracieuse de le dire.
Ça fait un son incroyable.
Ah oui, vraiment.
Un peu.
C'est un concert incroyable. De geisha, quoi.
Ouais,
d'accord.
Ouais, tout à fait, oui.
Bon, écoutez, je crois que vous nous avez mis l'eau à la bouche, hein, si je puis dire, et je vous invite à joindre le geste à la parole, Marc. On va prendre un morceau qui s'appelle You Were There, ok? Alors, vous êtes en peignoir dans votre salon, face à vous un clavier, à droite un looper, vous commencez par la rythmique, allons-y.
C'est ça.
Voilà.
Le rythme.
Et là, qu'est-ce qui se passe ensuite?
Tranquille. Alors maintenant, c'est enregistré.
Ouais.
Maintenant, piano. Je commence à jouer le piano. Mm-hmm. Voilà. Gentille. Encore un petit peu le piano. C'est l'un après l'autre. Alors là,
un peu de percu peut-être.
Le percu c'est déjà fait.
D'accord.
Maintenant le piano c'est enregistré, les deux.
Ouais.
Et voilà.
Un peu plus
pour texture. Et je crois après c'est le base après
ligne
ça.
Ligne de basse.
Oui, ligne de base.
Là, alors non. Voilà.
Et voilà.
Très belle ligne de basse.
Merci. Ouais, merci. Mm-hmm. C'est une chanson tranquille. Ça me fait penser un peu de mon père.
Et d'ailleurs, vous avez commencé à chanter.
Ah oui.
Attention, vous êtes là. Prêts
là. Oh. Et oui.
Ah non, c'est le tour prochain.
Non. Ça va arriver.
Ça va
non, arriver, c'est hein. Tout bas, c'est tout
oui,
bas,
c'est tout bas. Oui. Mais ça va arriver. Attention, vous êtes prêts.
Ça va arriver.
Vous êtes prêts là.
Je suis prêt. 3, 2, 1. C'est parti.
Allez. Marc Robillet dans Pop 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 sur France Inter. Alors Marc, c'est un très joli morceau, une très belle chanson, mais qui ne rend pas justice au délire de vos performances scéniques. Donc,
c'est sûr.
La prochaine fois, vous venez dans ce studio avec votre matos.
Oui.
D'accord.
Absolument.
Promis, juré.
Promis.
Ok.
Ouais.
Bien, merci Marc Robillet. Vous êtes actuellement en tournée en Europe. Vous serez en concert au Transmusical de Rennes le 6 décembre. Et ce soir au Cabaret Sauvage, mais c'est complet.
Désolé.
Merci Farid, Madame Sarfati. Votre nouveau Comedy Club ouvre la semaine prochaine, le 27, à Paris. Et vous serez en tournée dans toute la France avec le spectacle Hexagone. Vous serez en tournée dans l'Hexagone avec le spectacle La France. Toutes les dates sur la page France Inter de l'émission franceinter.fr. Merci d'être venu dans
Merci
ce studio.
Vous,
Merci
plaisir.
À vous deux. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Rémi Sistiaga, Aurélien Esventre, rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop, le duo Pop Pierre et Gilles et eux. C'est le groupe de rock britannique Temples. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos loopers sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials 36 15 pop 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 sur Instagram et Twitter. Je suis pas sûr.